Bonsoir à toutes et à tous, et bien c'est l'heure de l'Opus Festival depuis l'hôtel Le Maréchal de Colmar, générique.
Opus Festival international de musique de Colmar, hommage à Evgeny Kissin. Une émission d'Accent 4 en partenariat avec le Festival international de musique de Colmar et avec le soutien du CIC Est d'Arpège Armand Meyer et de l'hôtel Le Maréchal de Colmar.
Merci d'être fidèle à Accent 4, partenaire du Festival de musique de Colmar. Aujourd'hui, mes invités sont au nombre de trois, puisqu'il s'agit du trio Zadig, qui se produisait à 12h30 au Coiffus de Colmar. J'ai donc nommé Yann Barber, piano, Marc Girard Garcia, violoncelle, et Boris Porgolotto, violon. Il se produisait, je l'ai dit, ce midi au Coiffus, dans un programme Beethoven et Tchaïkovski. Alors, vous interrogez peut-être sur le programme du jour à Colmar. Eh bien, à l'heure où sera diffusée cette émission, le Quatuor 212, dont les membres viennent du Metropolitan Opera de New York, et Pierre Génisson clarinette seront à la chapelle Saint-Pierre et joueront Weber et Mozart.
Thank you.
Voilà, nous écoutions un extrait du quintet pour clarinette en la majeur que Schell 581 de Mozart, les interprètes Pierre Génisson et le quatuor 212. J'ai donc plaisir à recevoir Yann Barber, piano, Marc Girard Garcia, violoncelle et Boris Porgolotto, violon. Boris, vous me disiez que Pierre Génisson, vous le connaissiez déjà.
Oui, il s'avère que c'était mon voisin. Il habitait deux étages au-dessus de chez moi, à Paris, dans le 15e. Voilà.
Et vous n'avez pas encore eu l'occasion de jouer avec lui?
Pas encore.
Non, ça viendra. Dans l'article biographique qui vous est consacré, on peut lire « C'est dans l'amitié que le trio Zadig puise toute sa force et son authenticité ». Car Marc et Boris, vous êtes des amis d'enfance. Vous avez étudié au Conservatoire de Paris et ensuite vous êtes retrouvés à Vienne.
Voilà, voilà, tout à fait. En fait, on était camarades de classe depuis qu'on a 6 ans à Toulouse. Donc voilà, on s'est suivis, on était dans les mêmes classes pendant toute notre adolescence. Donc voilà, on était très copains, on a fait beaucoup de musique ensemble. Après le Conservatoire de Paris, on s'est retrouvés à Vienne sans se concerter. Au mois de juin, on se recroise et tout. On se dit, ah, tiens, l'année prochaine, moi je pars à Vienne en Erasmus. Puis Boris me dit, ah, bah, je viens de faire le concours et tout. Donc c'était un heureux hasard. Et en fait, c'est à Vienne où est née l'envie de faire du trio ensemble. De façon vraiment à plein temps, de façon professionnelle. Et du coup, voilà, on a cherché des pianistes un petit peu là-bas, rien de probant. Et du coup, dès qu'on est rentré, on est tombé sur Yann Barber.
Oui, comment vous avez rejoint le trio, Yann?
En fait, c'était vraiment par hasard. J'ai reçu un appel de bourse un jour, et on a essayé. Ils sont venus à mon petit appart de 9 mètres carrés et on a joué ensemble et ça marchait tout de suite en fait. Donc depuis ça, on joue presque chaque jour.
Ouais. Et c'est l'amitié entre les trois musiciens, c'est une condition nécessaire pour faire de la musique, pour avoir le plaisir de jouer ensemble. On sentait cette amitié d'ailleurs à 12 heures. J'avais l'impression de. Je vais dire quelque chose qui est. C'est les yeux qui s'écoutent et les oreilles qui se regardent.
C'est bien dit. Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais en tout cas, ça aide beaucoup. En tout cas, je n'ai jamais essayé autrement que de faire la musique de chambre avec des amis. Et c'est vrai que c'est quand même mieux d'être ami avec ses partenaires de musique de chambre, je pense.
Ouais. Oui, je pense qu'en fait, il y a deux solutions. Soit on est amis d'abord et on travaille ensemble, et puis on reste amis, bien sûr, mais on devient, après, en se professionnalisant, collègue aussi. Soit on commence en étant des collègues et puis on devient amis, parce que de toute façon on partage tellement de choses en fait en faisant ça qu'on est obligé d'avoir des liens d'amitié, c'est nécessaire.
Et à Vienne, un terroir musical, vous avez eu l'occasion, je suppose, d'aller très souvent à l'opéra ou d'aller écouter les plus grands chefs qui se produisent à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Vienne.
Oui, oui, beaucoup. On y allait très souvent à l'opéra. On essayait d'y aller au moins deux fois par semaine, voir de beaux opéras, il y avait pas mal de choses. J'ai beaucoup aimé Eugène Onegin, Tchaïkovski, par Zubin Mehta. Je trouvais ça formidable.
Non, puis à Vienne, on peut accéder à l'opéra pour presque rien du tout, ouais, avec les Stehplatz au fond. Alors, il faut avoir des bonnes jambes. Mais, mais non, ça permet. Et puis en plus, on peut y aller du coup en plusieurs fois. On fait un acte et puis quelques jours après, on fait la suite. Non, c'est vraiment une ville d'inspiration musicale très forte.
Je crois d'ailleurs que vous avez reçu les conseils d'un violoncelliste du Philharmonique.
Tout à fait, Robert Nodge. Qui est principal celliste, violoncelle solo de l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Donc voilà, j'ai travaillé avec lui pendant un an et c'était vraiment très très intéressant. Et en fait, on sent vraiment une tradition très très forte. Et c'est ça qui fait la force de leur orchestre. Et donc il y avait beaucoup à apprendre.
La tradition, c'est important en musique ou pas?
Je pense que c'est très important, oui. C'est quelque chose qui. Comment dire, la tradition, oui. C'est ça qui donne tout le style, tout le. Les choses, essayer de comprendre comment a été composé quelque chose, dans quelles circonstances, dans quel milieu culturel. C'est un peu nécessaire. Et après, de toute façon, ça évolue aussi, donc, parce qu'entre les générations, on ne peut pas.
On n'a pas le même regard sur une œuvre aujourd'hui, le regard qu'on a eu il y a 50 ans, bien sûr. Ouais. Et vous, Yann, vous avez été l'élève d'un pianiste dont on redécouvre les enregistrements, puisque Sony vient de rééditer mm-hmm. l'intégralité de ses enregistrements, c'est André Watts.
André Watts, c'est ça, oui. J'avais la chance d'étudier avec lui pendant 8 ans, presque, oui. C'était vraiment une chance incroyable. Un homme tellement généreux et gentil, et avec une connaissance. Depuis l'âge de 16 ans, il a remplacé Glenn Gould. Il a travaillé avec Leon Fleischer après, et il a tellement d'expérience sur la scène.
Et il a remplacé Glenn Gould en 1963 à la demande de Leonard Bernstein. Mm-hmm. Voilà. Ouais. Et on parlera tout à l'heure un petit peu de Bernstein, parce que je crois que vous avez un projet autour de ce formidable chef d'orchestre et compositeur aussi. Lorsque le trio a été fondé, il y a combien de temps à peu près ?
Alors ça va faire presque 4 ans, en octobre. Là. Ouais.
Donc, il a été aussitôt distingué par de nombreux prix, ce qui n'en demeure pas moins que vous avez continué à vous perfectionner. Vous avez rencontré Ivry Gitlis et vous avez rencontré aussi Menahem Pressler. Menahem Pressler, le fondateur du Beaux-Arts Trio. Parlez-moi un peu de cette rencontre.
En fait, on apprenait énormément parce que vous avez dit qu'il était assez dur avec les étudiants, enfin avec les personnes qui coachaient. Et il s'avère qu'avec nous, c'est toujours très bien passé. Bon, il y avait des petits moments de battement, mais c'est vrai que c'était, pour nous, c'était vraiment très, très fort cette rencontre, parce que bon, on est investi dans un trio avec piano, et c'est quand même le pianiste du plus grand trio avec piano, le Beaux-Arts Trio, et on était vraiment, chaque seconde, on était tout le temps émus, en fait. J'arrive toujours pas à m'en remettre.
Oui, c'est ça. Et à raison, Boris, c'est quelque chose de très, très émouvant, en fait, quand on se retrouve à jouer devant ce monument, en fait, de la musique de chambre, du trio, du piano, et puis surtout à son âge, en fait, et qu'il a encore tellement de vivacité d'esprit, et il entend tellement de choses, il ressent encore musicalement ce qu'il veut entendre, ce qu'il veut faire. C'était vraiment une rencontre très, très importante pour nous.
Yann.
Oui, c'est un personnage qui... je pense que la musique, c'est tellement naturel pour lui. C'est quelque chose qu'il vit, et d'avoir un petit peu de temps avec lui, ça donne beaucoup d'inspiration. Et c'est une chance aussi pour moi, parce qu'en fait, j'ai étudié à Indiana University avec André Watt, et lui, il est là. Et donc, je n'avais pas l'opportunité d'étudier avec lui quand j'étais là, mais quand j'arrivais à Paris avec Marc et Boris, on commençait d'avoir les cours avec lui. Donc, c'était touchant, vraiment touchant. Parce qu'il est très proche avec mon prof aussi, et maintenant avec nous, on a la chance.
Bien, bon, on va écouter Menahem Pressler avec ses deux collègues du Beaux-Arts Trio. On va l'écouter dans Beethoven. Thank you. Nous écoutions le presto du trio numéro 5 en ré majeur, opus 70 numéro 1, le dit trio des esprits, par le trio Beaux-Arts Trio, mené bien sûr par Menahem Pressler. Mes invités sont donc les trois membres du trio Zadig. On en vient un petit peu à votre répertoire qui est extrêmement large, de la musique classique à la musique contemporaine. Et d'ailleurs, vous participez à un projet de Benjamin Attahir, un jeune compositeur né aussi à Toulouse en 1989. Comment s'est faite cette rencontre? Et parlez-moi un peu de ce projet.
La rencontre avec Benjamin, c'est la même qu'avec Marc et moi, Boris. C'est ça, l'amitié. On s'est rencontrés pareil à 6 ans aussi, donc à Toulouse, et on a grandi ensemble, on est monté ensemble à Paris. Alors il n'est pas venu à Vienne, mais. Et voilà, et en fait, on a toujours travaillé ensemble, on a toujours joué ensemble, que ce soit pour s'amuser ou même parfois des petits concerts, des petits cachetons comme on dit. Et après, il est très vite devenu compositeur, donc vers 13 ans, 14 ans, on a à Toulouse, le Conservatoire de Toulouse a décelé un talent de composition chez Benjamin. Et donc, il a écrit une première pièce qui s'appelait Avid, qui m'a été dédiée. Donc, on était inséparables, on était avec Benjamin. Et après, il a commencé à composer un peu plus pour les examens ou les choses comme ça. Après, bon, il est devenu très vite, une notoriété assez bonne. Et depuis qu'on a fondé le trio, avec Benjamin, on s'était dit qu'il fallait qu'il nous compose quelque chose. Et pour le festival d'Aix-en-Provence, l'année dernière, ou il y a 2 ans, il me semble, il nous a composé donc un trio qui s'appelle Asphar, qu'on va enregistrer pour notre premier CD. Et on avait décidé aussi pour ce CD-là, donc, où il y aura Ravel, la pièce de Benjamin Attahir, et des transcriptions, enfin une fantaisie sur West Side Story, transcrite par Bruno Fontaine. Il va créer des pièces transitoires entre Ravel, sa pièce, et sa pièce jusqu'à Bernstein. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans le jazz ou dans la variété, donc un CD continu. Et ça sera, je pense, une première dans la musique classique, et on espère que ça va plaire. Voilà.
La création contemporaine, c'est très important pour des jeunes musiciens.
Alors c'est très important, c'est très intéressant, parce que du coup on travaille directement avec le compositeur, il est vivant, il est devant nous, en fait, il nous explique ce qu'il a voulu, il nous explique ce qu'il a entendu. Donc c'est très important de faire vivre la musique aujourd'hui et qu'elle évolue. Nous, ce qui est intéressant de travailler avec Benjamin, c'est que justement la pièce, il l'a composée avec nous, il nous connaissait, il nous a fait jouer des choses pendant le processus de composition, enfin il n'est pas arrivé avec un produit fini, et il s'est montré, donc c'est ça qui est encore plus intéressant quand il y a un lien comme ça. Mais donc voilà, je pense qu'il faut vraiment ajouter à son répertoire des pièces contemporaines, des nouvelles pièces, et essayer celle qui valent le coup.
Est-ce que vous pensez que lorsqu'un compositeur écrit une œuvre, elle ne lui appartient plus lorsqu'il décide de la confier à ses interprètes, qui sont aussi des créateurs pour la première?
Alors, je pense qu'il faut toujours respecter la patte sonore du trio, enfin, quand on parle de la pièce d'Asphar, ou même l'ambiance sonore que Benjamin veut, ou d'autres compositeurs. Mais après, il faut savoir aussi s'approprier des pièces. Bon, les interprètes doivent s'approprier des pièces, il me semble. Et je pense qu'elle appartient toujours au compositeur.
Oui,
ce qui est bien aussi avec, je reviens un peu sur le fait de travailler avec les compositeurs, c'est que quand il y a des choses trop difficiles, on peut demander à changer. Ça aurait été bien de faire ça avec Strauss aussi.
Non, mais aussi, ce qui est très intéressant, imagine s'il avait la chance de parler avec Beethoven ou Mozart, quelque chose comme ça, et il y a quelqu'un qui est vivant, qui peut dire une chose que ça, c'est comment j'ai écrit, mais en fait, je veux cette sonorité, je veux ça avec ce que j'ai fait. Et je pense beaucoup de temps, par exemple, l'esprit, True Esprit qu'on a fait aujourd'hui, les tremolos, et qu'est-ce qu'il voulait avec cet effet-là? Est-ce qu'il voulait entendre toutes les notes, ou est-ce qu'il voulait un effet? Mm-hmm. On doit, comme interprète, on doit essayer de décider ça.
On va écouter un extrait du trio Asphar de Benjamin Attahir. Qui peut me parler un petit peu de ce trio, d'esprit, de cette musique? Alors, ce qu'on va entendre, c'est assez violent, d'ailleurs.
Oui, En fait, il y a une partie assez violente, une partie milieu avec des chants arabisants, je ne sais pas si on peut dire ça.
Oui, on peut le dire.
Et avec des quarts de ton, beaucoup de quarts de ton, donc je pense qu'elle n'y sera pas dans le... Non, parce que c'est qu'un extrait, non, il me semble.
Oui, c'est qu'un extrait.
Et c'est une sorte de forme en arche où ça commence violent et ça finit violent et ça finit en strette, en fait. Donc il y a, j'explique un petit peu, il y a plein d'idées qui sont émises et au fur et à mesure ça se rapetit ici et au final ça finit comme un bouquet explosif,
comme un feu d'artifice.
Feu d'artifice, voilà, bouquet final.
Eh bien on vous écoute.
Thank you.
Eh bien, un extrait d'Asphar de Benjamin Attahir par le trio Zadig, dont les trois membres sont mes invités pour cet opus. Vous vouliez compléter votre propos,
Marc? Alors oui, je vais compléter ce que disait Boris sur Asphar, sur la pièce de Benjamin. Alors Asphar, en fait, ça veut dire le voyage. Donc Benjamin, il est parti du coup des cinq notes qu'on entend au début, sol, si, la, do, là, qui fait voyager en fait pendant toute la pièce. Voilà, il utilise l'élément qui modifie en fait, c'est toute une épopée. Et en fait, par ce voyage, il faisait référence du coup à notre nom, à Zadig, en fait, voilà, toute la destinée, le voyage de Zadig tout au long du livre de Voltaire. Et donc voilà, et vu qu'il a écrit cette pièce pour nous, il voulait faire le lien. Et donc voilà, c'est les cinq notes qu'on retrouve et qui vont après se retrouver à la fin de la pièce. Parce que là, c'est juste un extrait, en fait. Il y a un clip qui a été fait par Gauthier Durin, qui est sur YouTube, qui est assez expérimental, mais assez. Enfin, nous, on l'aime beaucoup. Et donc voilà, c'est assez intéressant d'allier justement la musique contemporaine avec un travail visuel d'image. Donc voilà, c'est juste le début de la pièce qu'on a fait pour cette vidéo, mais voilà, elle dure en tout 17-18 minutes. Et donc voilà, c'est un grand voyage.
Vous pensez d'ailleurs que les concerts, le concert traditionnel de musique de chambre ou symphonique, devrait s'associer à d'autres formes d'art comme la vidéo par exemple, pour essayer d'amener un autre public vers la musique?
Bien sûr, je pense que c'est important en fait, et ça peut que enrichir en fait le propos, enrichir la musique en fait, d'avoir aussi un jeu visuel. D'ailleurs, on a un autre projet, Boris, si tu veux en parler, avec France Télévisions, et Schoenberg peut-être.
Ah oui, on va enregistrer pour France Télévisions une sorte de film expérimental autour d'un thème qui s'appelle Night Wandering, donc errant dans la nuit, si on traduit, ça sonne moins bien en français. Et on va jouer du coup les esprits de Beethoven, le trio élégiaque de Rachmaninoff, le premier, et la transcription de Steuermann de la Nuit Transfigurée. Voilà, et ça sera un programme autour de la nuit, voilà, et tout ce qui se passe durant la nuit, et ça va être enregistré dans un studio ovale, où il y aura
des écrans
oui. Et ça va être mi-écran, mi-nous en fait, sur la vidéo, où il va y avoir la nature qui se développe durant la nuit, en accéléré sûrement, je sais pas, on sait pas encore vraiment comment ça se passait, et c'est toujours Gauthier Durin qui sera à la direction, voilà ça. Donc ce sera sur Culture Box en début 2019 et sur France Télévisions, je sais plus quelle chaîne, voilà.
Eh bien, on vous suivra. Alors, j'ai lu également que, alors bien sûr, vous jouez dans les salles de concert, mais vous avez aussi le souci d'apporter la musique ailleurs, notamment dans les prisons, ou d'aller vers des structures qui accueillent des enfants handicapés.
Alors oui, bien sûr, c'est très très important pour nous. Et donc justement, on peut parler des prisons. C'est une expérience qui nous a vraiment marqué, qui nous a vraiment touché. En fait, c'est De jouer quelque chose, d'apporter quelque chose à des gens qui sont enfermés, qui n'ont plus beaucoup d'accès à l'extérieur, qui sont des gens qui payent quelque chose qu'ils ont fait dans leur vie, et du coup d'apporter en fait cette musique là enfin, on sent vraiment, voilà, toutes les émotions des gens, enfin, on arrive à les faire s'échapper en fait pendant un moment, et tout ça dans un contexte très très lourd et très, enfin, on passe les grilles, on arrive, il y a toutes les sécurités, les choses. Et c'est vrai que non, c'est très touchant, et je pense qu'on apprend beaucoup, nous. Et c'est très important de faire ce genre de concert, parce que la musique, elle est faite pour ça à la base. Et donc,
et
voilà,
tout le monde y a droit, je pense.
Voilà, tout le monde y a le droit. Et donc voilà, on a joué aussi dans les hôpitaux, on a joué pour les enfants, dans les écoles. Ça, c'est complètement autre chose, mais c'est très très amusant aussi. Et comme ça, on ressent de la curiosité, de plein de choses, beaucoup plus qu'on pouvait s'y attendre avant, en fait. Mais donc voilà, on essaye au maximum, en fait, quand les opportunités se présentent, de faire ce genre de projet.
Et c'est souvent pour eux, je pense notamment aux prisonniers, de découvrir ce qu'est la musique classique. Certains ont sans doute une connaissance, mais ça ne doit pas être la majorité, je pense.
Il y avait beaucoup, en fait, c'était la majorité qui, je pense, qui avait un savoir de la musique classique. En fait, c'était intéressant pour nous parce que l'écoute dans cet milieu, c'était très très profond, en fait, très intense, et c'était je sais pas, c'était enrichissant.
Enrichissant.
Vous discutez avec eux, il y a des échanges après.
Il y a des échanges après, oui. Ouais. Oui. Et Et c'est dans ces moments-là aussi où on se rend compte que finalement la musique classique, c'est pas élitiste du tout et que c'est à la portée de tout le monde. Et donc Pro Quartet ou même la chapelle Reine-Elisabeth, musicale Reine-Elisabeth à Waterloo, font un travail fantastique avec ça pour amener voilà, la musique classique, ou quelle qu'elle soit, dans un milieu, voilà, dans les hôpitaux, dans les prisons ou même chez les gens défavorisés. Et je trouve que c'est vraiment très important de faire quelque chose comme ça parce que ils n'ont pas l'occasion déjà d'en entendre souvent, que ce soit de la musique classique live ou même en CD. Et pour nous, c'est très important aussi de partager avec le plus de monde possible. Voilà, pour nous, c'est le partage, ce qui est le plus important. Et donc, on est très content et très heureux de faire ce genre de...
Puis un musicien qui a lancé ces initiatives, c'est Jean-Claude Cazetsu, qui a très, très souvent joué dans les prisons. On va bientôt arriver au terme de cette émission. On va vous écouter encore une fois dans un extrait du trio pour piano et cordes en ut mineur, opus 101 de Johannes Brahms. Eh bien, c'était Brahms, le trio pour piano et cordes en ut mineur opus 101, par le trio Zadig. Ben, grand merci à vous d'être passé par ce micro d'Accent 4. C'est quoi l'été du trio Zadig ?
Alors, donc après Colmar, on va ensuite au festival Radio France Montpellier. passe aussi à Valognier, en Valogne.
Donc voilà, oui, quelques concerts en France, et surtout, voilà, le plus gros projet, c'est en août, on va enregistrer, donc on va se concentrer beaucoup là-dessus. Et donc voilà, beaucoup de concerts, de travail, et pas beaucoup de vacances.
Quel éditeur pour le disque, hein?
Alors ça sera chez Out There Music, et on n'est pas encore sûr du label. Mais...
D'accord, ben, on suivra ça avec attention, et puis on aura sans doute l'occasion d'en reparler au micro d'Accent 4, ou en tout cas ailleurs. Merci à vous.
Merci.
Prochain rendez-vous du Festival de musique de Colmar, bien c'est tout à l'heure à 21h à l'église Saint-Mathieu. Vladimir Spivakov et les musiciens de l'Orchestre National Philharmonique de Russie accueillent un jeune pianiste russe de 17 ans, Alexander Malofiev. Il interprétera deux concertos, le concerto en la mineur de Grieg et le troisième concerto en ut majeur de Serge Prokofiev. Et ce ne sont pas les concertos les plus faciles du répertoire. Demain, à ce micro, je recevrai un autre trio pour piano et cordes, le trio Chausson. Merci à Maxime d'avoir réalisé cette émission. Bon festival à toutes et à tous.
Opus, Festival international de musique de Colmar. Hommage à Evgeny Kissin. Une émission d'Accent 4 en partenariat avec le Festival international de musique de Colmar et avec le soutien du CICS Tarpège Armand Meyer et de l'hôtel Le Maréchal de Colmar.